Bonjour à tous. Moi, c'est le Père Paolo. Nous commençons aujourd'hui une série d'émissions sur les vertus et sur les vices. Bien sûr, d'abord, on va commencer, heureusement, par les vertus, vertus cardinales, vertus théologales, et ensuite, on parlera un peu de sept vices capitaux. Ne vous inquiétez pas si vous êtes un peu perdu au milieu de tout ça. Nous allons essayer d'approfondir, d'expliquer dans un langage vivant, dans un langage d'aujourd'hui, quotidien. Nous allons essayer de voir aussi toutes ces questions dans la parole de Dieu et essayer de voir comment peut-être le vocabulaire d'aujourd'hui n'est plus le même que le vocabulaire de la Bible. Ce constat, le constat de cette différence, nous aidera à entrer plus en profondeur dans ce mystère de la vie chrétienne. Tout d'abord, essayons de voir qu'est-ce qu'une vertu. Quand on parle de vertu dans la doctrine et dans la foi chrétienne, on parle de quoi? Or, la vertu, parfois aujourd'hui, on pense à quelqu'un qui est tranquille, qui aime tout le monde, qui donne beaucoup d'aumônes. Pas forcément. Le mot vertu veut dire, au fond, force, une force intérieure. Il est apparenté au mot virilité, voyez-vous. Et donc, vertu en latin veut dire la force, comme on pourrait dire, par exemple, la vertu d'un médicament. Et le mot vertu, cette force, j'aime bien comparer au monde scolaire, comme pour le jeune. Quand on dit par exemple d'un jeune qu'il est fort en maths, alors pour la vertu, c'est un peu la même chose. C'est une disposition intérieure qu'on a pour telle ou telle chose. La vertu, par exemple, de l'humilité, la vertu de la charité, c'est-à-dire qu'on est, disons, spontanément porté vers l'humilité, vers la charité, etc. C'est une habitude que nous avons en nous. L'Église va dire que le but d'une vie vertueuse, cultiver les vertus, c'est devenir semblable à Dieu, de plus en plus semblable à Dieu. Donc cette force que nous avons en nous, comment l'acquérir ou comment la rendre encore plus forte? Nous savons que c'est une habitude, c'est-à-dire des actions répétées qui nous aident à acquérir les vertus. Ça, c'est très important. Quand on parle de vertu, ici on en parlera, quand on parle de vertu, on n'en parle pas d'une action. Ah, ce matin, j'ai posé tel ou tel acte. Non, une vertu, c'est vraiment une habitude. On est spontanément, comme je disais tout à l'heure, porté vers telle ou telle action. Parmi les vertus, on peut les diviser en deux grandes catégories. Une catégorie, ce sont les vertus humaines, c'est-à-dire que tout homme sur terre peut acquérir, qu'il soit chrétien ou pas. Et ensuite, les vertus théologales dont on parlera dans d'autres émissions. Aujourd'hui, nous commencerons donc à la première de quatre vertus cardinales. Les mots cardinales, la charnière de la porte, c'est-à-dire ce sont des vertus autour desquelles beaucoup d'autres vertus peuvent se regrouper. Alors, la première de vertus cardinales, c'est la vertu de la prudence. Comme je vous ai dit, il y a toujours une question de vocabulaire derrière, puisque nous parlons des mots qui sont utilisés depuis plus de 2000 ans. Alors, il faut faire attention. Aujourd'hui, quand on parle de prudence, qu'est-ce qu'on pense tout d'abord? On pense à la précaution. Souvent, quand on dit qu'il faut être prudent, c'est-à-dire qu'il faut avoir de la précaution vis-à-vis de la vitesse en voiture ou par rapport à l'argent qu'on dépense, par rapport à la santé. Dans une époque de pandémie, on a beaucoup parlé de la prudence, être prudent. Or, la prudence est beaucoup plus que cela. Elle inclut bien sûr la précaution, mais la précaution n'est qu'un aspect de la prudence. La prudence, c'est le discernement pratique, c'est-à-dire savoir réfléchir, discerner quelle est l'action à accomplir et l'accomplir vraiment. Voilà une définition toute simple de la prudence. On l'appelle dans la tradition de l'Église la conductrice, le guide de toutes les vertus. La prudence, donc, est un équilibre. D'un côté, on pourrait être naïf ou impulsif, c'est-à-dire agir sans réfléchir auparavant. Ça, ce n'est pas être prudent. Mais de l'autre côté, si on est toujours dans la ruse, dans les calculs, en essayant d'avoir des profits, de tirer profit de toute occasion, là non plus, ce n'est pas la prudence. Donc, pour nous, chrétiens, le critère de la prudence, c'est la charité. La charité est la reine de toutes les vertus. C'est-à-dire que face à une situation concrète, le chrétien va réfléchir, avec l'aide de la grâce et de l'Esprit Saint, bien évidemment, pour discerner quelle action il doit accomplir. La prudence donc nous fait poser cette question, ces questions. Qu'est-ce que je dois faire? Quand dois-je le faire? De quelle manière? Qu'est-ce que je dois dire? Comment dois-je le dire? À quelle personne? À quel moment? Ce n'est pas la même chose. Par exemple, si je dois dire une vérité à une personne, si je le dis devant tout le monde, si je lui dis tout seul en privé. Donc la prudence nous fait réfléchir sur tout cela et avoir ce discernement pratique. Dans la Bible, dans la parole de Dieu, il y a beaucoup de mots utilisés. Ce mot prudence est plutôt un mot philosophique. Il est utilisé très peu dans nos traductions, dans les traductions de nos Bibles. Mais souvent, le mot sagesse, ou par exemple quand on parle d'un homme avisé ou un homme sensé, sage, on parle de cette réalité de la prudence. La prudence, mes frères, ce discernement donc, c'est la chose peut-être la plus importante que nous devons demander dans notre prière à l'Esprit-Saint, qu'il nous donne le discernement, qu'il nous aide à découvrir quelle est la volonté de Dieu dans notre vie. Que devons-nous faire? La prudence, mes frères, est comme l'huile, vous savez, de la parabole des 10 vierges. Cette huile que les vierges sensées, donc prudentes, sages, conservent en plus au cas où l'époux tardera à venir. Donc cette huile est l'image vraiment de la prudence que nous sommes appelés à avoir. Dans la Bible, nous avons beaucoup d'exemples de prudence. Nous pouvons citer le roi Salomon. Le roi Salomon, qui est le roi sage par excellence, c'est donc un roi prudent qui a du discernement. C'est la chose qu'il demande à Dieu. Quand Dieu, en songe, lui dit de demander ce qu'il veut, il ne demande pas de richesse, il ne demande pas de pouvoir, pas de renommée, il demande le discernement. C'est un autre mot pour la prudence. Et Dieu lui concède ce discernement avec les richesses, avec la renommée, avec la gloire, etc., la paix dans son royaume. Et Salomon va exercer de suite cette prudence qu'il a reçue. Nous connaissons tous, je pense, l'épisode du jugement de Salomon avec ces deux femmes qui se disputaient un enfant. L'une accusait l'autre d'avoir pris son enfant. Et Salomon va dire, bon, alors partagez l'enfant au milieu. Bien sûr, c'est un peu caricatural, mais pour dire partagez l'enfant au milieu, et on verra qui est la mère. Et quand la vraie mère dit non, non, donnez-le plutôt à l'autre femme et ne le partagez pas en deux, ne le tuez pas, cet enfant. Salomon découvre qui était la vraie mère du petit. Mais nous avons d'autres exemples dans la Bible de prudence. Nous avons aussi Suzanne, c'est le chapitre 13 du prophète Daniel. Cette femme très belle qui était convoitée par des personnes, des hommes de son village, des hommes très puissants, des magistrats d'ailleurs. Et le moment où ces magistrats essayent de la convaincre à aller avec eux, Suzanne va répondre, parce qu'ils la menacent, ils font un chantage en disant « si tu ne viens pas avec nous, on va crier en disant qu'on t'a vu avec un amant, avec quelqu'un d'autre que ton mari ». Et Suzanne se dit, dans cette prudence, dans ce discernement, elle dit « je préfère rester innocente ». Ne pas pécher avec vous, même si je suis accusé à tort, même si je suis condamné à mort, au moins je n'ai pas péché contre le Seigneur. Donc Suzanne va avoir ce discernement, cette prudence. Et en même temps, Daniel, le prophète Daniel, dans le même chapitre, va avoir lui aussi une stratégie, il va réfléchir à une stratégie pour révéler l'innocence de Suzanne. Il va interviewer, il va parler avec chacun de ces deux hommes qui voulaient faire pécher Suzanne. Et en voyant la contradiction dans l'histoire des deux hommes, il va faire comprendre à tout le monde qu'en fait, il mentait et c'est Suzanne, innocente, qui disait la vérité. Donc, encore un exemple de prudence. Nous avons Saint Paul dans le Nouveau Testament. Vous savez, dans les Actes des Apôtres, Saint Paul est accusé donc et est mis en prison. Et à un moment donné, il dit à son bourreau, à celui qui le flagellait, « Mais vous traitez comme ça un citoyen romain ?» Donc Paul, qui avait la citoyenneté romaine, a compris, avait eu ce discernement, que c'était le moment juste pour le faire connaître de ses bourreaux. Comme ça, ils arrêtaient le châtiment et ça permettait ensuite d'aller jusqu'à Rome annoncer l'évangile. Alors même que les bourreaux voulaient le libérer, Saint Paul dit non. J'en appelle à César et donc il doit aller jusqu'à Rome pour annoncer l'évangile. Donc il a eu ce discernement, il profite de sa citoyenneté romaine pour évangéliser jusqu'à la capitale de l'Empire. Jésus-Christ, le Dieu fait homme, nous montre aussi une prudence très pratique dans son évangile. À plusieurs reprises, Jésus va être persécuté, on va essayer même de le tuer, par exemple de le lapider ou de le pousser d'un précipice, et Jésus à chaque fois va réussir à s'échapper. Mais le moment où il comprend que son heure est venue, que l'heure que le Père a préparée pour lui est venue, là il ne se dérobe pas, il va droit vers le but, il va vers la croix. Donc il a ce discernement, cette prudence de savoir quelle était l'heure où il devait donner sa vie et les autres moments où il ne devait pas donner sa vie, où il pouvait très bien échapper de la main de ses ennemis. Et lui-même, quand il nous envoie en mission, tous les chrétiens, il dit « Soyez prudents comme des serpents et simples comme des colombes ». Saint Jean Chrysostome, un père de l'Église, va interpréter cet évangile d'une façon, à mon avis, très juste et très parlante pour chacun d'entre nous. Saint Jean Chrysostome s'interroge « Pourquoi est-ce que Jésus dit « Soyez prudents comme des serpents et simples comme des colombes » Pourquoi ces animaux-là » Or, être prudent comme un serpent, nous dit Saint Jean Chrysostome, le serpent se laisse attaquer partout, sauf sa tête. Il sait que si on tranche en petits morceaux de la fin de son corps, c'est pas grave, ça va repousser. Mais si on tranche sa tête, si on attaque, si on donne des coups sur sa tête, le serpent est mort. Or, il nous dit, quand Jésus nous conseille, nous dit d'être prudent comme des serpents, ça veut dire on peut se faire attaquer partout, sauf dans notre tête, c'est-à-dire notre foi. La foi, on ne peut pas la perdre, on ne peut pas laisser qu'on nous vole la foi. On peut nous voler de l'argent, on peut nous voler même notre propre vie. Les martyrs en sont la preuve, mais non pas notre foi. La tête, pour nous, c'est la foi. Voilà, être prudent comme un serpent. Et il complète en disant, être simple comme une colombe. On n'a jamais vu une colombe résister au mal. Il y a d'autres oiseaux qui, quand on les attaque, ils peuvent répondre avec beaucoup de violence. Une colombe, non. On l'attaque, elle ne fait rien en retour. Donc être simple comme une colombe, selon Saint Jean Chrysostome, c'est qu'une fois qu'on a été attaqué, on ne répond plus au mal, on ne résiste pas au mal, on rend le bien à celui qui nous a donné le mal. Mes frères, il y a des livres entiers dans la Bible qui nous parlent de la prudence, qui en font l'éloge. Nous avons le livre des Proverbes, très intéressant. Le livre de l'Ecclésiastique, appelé aussi le Siracide, je vous conseille. Il y a beaucoup d'exemples de prudence très concrètes dedans. Le livre de la Sagesse, bien entendu. Alors, parfois, comme je répète ce que je disais au début, parfois nous trouvons cette prudence derrière le mot sensé, avisé, sage, mais c'est toujours un homme qui a discernement, qui a cette science des saints. Les pères du désert disaient, quelle est la science des saints? Quel est le propre du saint? L'homme saint, l'homme qui cherche la volonté de Dieu, bien sûr, il est humble, il est charitable, il a beaucoup, beaucoup de vertus. Mais, disent les pères du désert, la science, le propre des saints, c'est le discernement. Savoir quelle est la volonté de Dieu dans chaque cas, dans chaque circonstance concrète de notre vie. Et mes frères, il y a un autre aspect de la prudence qu'il ne faut pas oublier. On n'a pas besoin d'être tous très prudents ou d'être des connaisseurs de toutes les circonstances, de tous les domaines. On peut aussi, on doit parfois, demander des conseils, des avis à des personnes prudentes, justement. Demander conseil à une personne prudente, dans la tradition de l'Église, une des façons d'avoir ce discernement. Parfois, nous sommes tellement impliqués dans la situation et nos passions sont tellement, nos tirailles à l'intérieur de nous, si nous devons faire telle ou telle action, si nous devons prendre telle ou telle décision, qu'il vaut mieux demander à quelqu'un d'autre, que nous reconnaissons comme prudent, évidemment. On ne peut pas demander à n'importe qui, mais à des personnes que nous jugeons comme étant des personnes qui ont ce discernement, de nous aider. Et ce n'est pas à eux de prendre la décision à notre place, bien évidemment, mais elles peuvent nous aider, nous éclairer. Dans la tradition de l'Église, nous avons les pères du désert qui étaient ces personnes prudentes au milieu du désert en Égypte ou en Israël, et à qui on allait toujours s'adresser pour dire « Abba, dis-nous une parole ». C'est-à-dire, on cherchait un peu ce discernement. Qu'est-ce que je dois faire dans tel ou tel cas? Quelle décision je dois prendre? Comment je dois parler à une personne qui m'a fait du mal, qui m'a fait du tort, etc. Voilà encore un autre aspect de la prudence. Nous avons vu aujourd'hui cette première vertu cardinale autour de laquelle se regroupent beaucoup d'autres vertus, la vertu de la prudence, ce discernement pratique à chercher le bien dans chaque circonstance de notre vie. Nous continuerons à la prochaine émission sur la justice, la deuxième vertu cardinale. Je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne semaine.
Songez à l'univers, il ne saurait.